La suite dans les idées, Sylvain Beaumont. Il suffit de considérer la rentrée littéraire, ou peut-être plus spectaculaire encore, la progression exponentielle du nombre de séries télévisées proposées et désormais consommées à la chaîne, résurgence contemporaine et en images des romans feuilletons du 19e, pour prendre la mesure de l'insatiable désir d'histoire qui semble nous saisir. Tout désormais semble mis sous la coupe du récit, à commencer par la politique qu'il s'agirait plus que jamais non seulement d'écrire et d'analyser, mais aussi de produire à la manière du storytelling. Mais est-ce vraiment si nouveau? Les histoires n'ont-elles pas été toujours déjà là? À quoi servent-elles vraiment? Impliquent-elles une suprématie des mots sur les images et la littérature dans tout ça? Ce sont toutes ces questions que nous nous poserons aujourd'hui à la suite dans les idées. La dernière, celle de la littérature, nous la réserverons plutôt à la seconde partie de l'émission lorsque nous rejoindra Alice Charles qui fait paraître La Demoiselle à cœur ouvert, peut-être le roman le plus intelligent de la rentrée, le plus réflexif assurément. Mais ces questions, nous les poserons d'abord à un chercheur qui depuis longtemps travaille sur le récit et depuis longtemps aussi s'intéresse à la manière dont les sciences cognitives peuvent venir enrichir les sciences sociales. Ce chercheur, c'est Jean-Marie Schaeffer, il est aujourd'hui l'invité de la suite dans les idées. Bonjour Jean-Marie Schaeffer.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'École des études en sciences sociales, et vous publiez aux éditions Thierry Marchès « Les troubles du récit pour une nouvelle approche des processus narratifs ». Alors le récit, ça vous connaît, si j'ose dire, ça fait longtemps que vous travaillez sur ces questions, vous êtes inscrit dans une tradition de réflexion sur le récit qui... Allez, on peut dire remonte d'une certaine façon à Roland Barthes et beaucoup à Gérard Genette, avec lequel vous avez longtemps travaillé. Et puis depuis assez longtemps maintenant, vous avez enrichi ce regard, ce courant originaire de la narratologie par un intérêt qui est propre à votre travail et que vous poussez toujours plus loin, un intérêt pour ce que l'approche cognitive, je crois que c'est l'expression que vous préférez utiliser plutôt que science cognitive, l'approche cognitive nous permet de comprendre de questions que autrefois vous vous posiez autrement, de questions qui touchent notamment à la perception. Il est toujours question d'œuvres d'art, de littérature, de peinture, d'art plastique, de musique, choses sur lesquelles vous travaillez, de cinéma, mais il est question aussi d'un élargissement de ces problématiques. Et là, c'est précisément ce que vous faites dans Les Troubles du Récit. L'enjeu et d'abord et avant tout d'élargir le regard pour considérer le récit de manière beaucoup plus large que ne l'a fait ce courant de la narratologie, en particulier Jean-Marie Schaeffer.
J'ai mis du temps à comprendre ce qui me manquait dans mes propres recherches et plus généralement dans la manière dont on s'intéressait au récit, et précisément parce qu'on s'intéressait au récit plutôt qu'aux narrations, aux activités de narrer. Et je me disais toujours que tout ça, le récit, ça ne peut marcher que parce qu'il y a des êtres humains qui sont capables de raconter et d'autres qui sont capables de comprendre. D'où vient cette double capacité créatrice et aussi de récepteur? Quand on regarde, on voit que les enfants, très vite, vraiment très vite, sont dans des univers narratifs, que ce soit des univers verbaux, des histoires qu'on leur raconte ou des histoires qu'ils commencent à élaborer, ou visuels. La télé, pour notre grand bien et notre grand mal, est omniprésente.
Les écrans, même.
Et les écrans, de manière plus générale, oui, bien sûr. Et voilà, c'est ça qui m'intéressait beaucoup. Et puis aussi que on parlait toujours que oui, le récit, c'est quelque chose de très important dans la vie des êtres humains. Ça structure notre identité, ça structure en partie les sociétés. Mais on ne se demandait pas d'où ça vient. Et c'est ça qui m'intéressait. En fait, que c'est quelque chose, ça je l'ai découvert peu à peu, qui est en quelque sorte intrinsèque à notre esprit. Parce que ça intervient dans des activités qu'on ne pense en général pas sous cette forme-là. Lorsque les souvenirs, bon, on pense parfois que c'est des récits, mais par exemple la planification d'action, on ne pense pas que c'est un récit, on pense que c'est une planification, alors que ça a une structure narrative. Voilà. Puis il y a les rêves, bien entendu. Il y a énormément d'activités de la vie quotidienne qui sont narrées.
Alors justement, on va revenir sur certaines d'entre elles, Jean-Marie Schaeffer. Vous avez fait le pari de vous intéresser à ce que vous appelez les marges du récit. C'est-à-dire pour comprendre comment ça marche, pourquoi ça fonctionne, pourquoi on peut narrer quelque chose et être compris par quelqu'un qui entend cette narration, par exemple. Eh bien, au lieu de travailler sur les récits canoniques, qui passe par un certain nombre de respects, de règles. Vous êtes intéressé à des récits non seulement pas canoniques, mais à des choses, vous venez de le dire, qui ne sont pas considérées en fait comme des récits, ce qui vous conduit à utiliser le mot de proto-narration.
Oui, ça c'était parce que je ne savais pas comment les nommer. Je ne voulais pas qu'on les confonde avec les récits, parce que nous, quand nous pensons narration, nous pensons récit. Mais je voulais qu'on comprenne que c'est des choses qui sont vraiment presque infra-narratifs, mais qui ont déjà les caractéristiques qui vont être développées culturellement par les êtres humains sous la forme des récits publics.
C'est-à-dire que c'est des segments de
récits. C'est des segments, c'est des séquences, et c'est des séquences sans ouvertes, sans unité. Où l'unité se construit, se déconstruit, se reconstruit. Et pour moi, l'exemple le plus, ou le cas, ou la situation la plus révélatrice, c'est vraiment la mémoire épisodique, que les écrivains ont bien étudié, que les psychologues ont commencé à étudier, mais c'est quelque chose qui n'est pas entré dans la conscience commune, à quel point la mémoire épisodique est une chose étrange et formidable à la fois.
Comment elle se caractérise, cette mémoire épisodique, et quel regard, enfin, quel objet d'étude est-ce devenu pour ceux qui adoptent cette approche cognitive?
Pour ceux qui adoptent cette approche cognitive, donc il y a d'un côté qu'ils se sont rendus compte que c'est vraiment des séquences narratives, des mini-séquences narratives, mais surtout ils ont commencé à comprendre comment la mémoire épisodique fonctionne. Et notamment ce trait tout à fait étonnant qui est que lorsqu'on se souvient d'un événement, c'est comme si on était dans l'événement. C'est vraiment l'événement comme tel qui remonte à la conscience. Et on sait comment ça fonctionne, disons, du point de vue neurologique. C'est parce que au moment où quelque chose arrive, eh bien, il y a une trace de l'ensemble de la séquence, parce qu'il se trouve que le monde, il est dans la temporalité. Donc, c'est de l'action déjà et des événements. Tout cela est avec les indicateurs contextuels est enregistré. Le cerveau ne peut pas tout garder, évidemment, donc il en extrait un petit index qui garde que les points principaux. Et quand on rencontre une autre situation, par exemple, du même type, c'est versé dans le même index, ou alors ça réveille cet index et donc ce souvenir. Et donc on revit vraiment le passé. Et je dis les écrivains parce que c'est évidemment entre autres Proust qui a, avec la mémoire involontaire, parce que c'est de la mémoire involontaire, la vraie mémoire épisodique, a montré à quel point il y a dans notre esprit ou notre cerveau, peu importe le terme, des réseaux dormants qui n'attendent que d'être réveillés et qui nous ramènent vraiment dans le passé. Et quelqu'un qui est très connu dans le domaine des recherches sur la mémoire épisodique, qui s'appelle Talving, a parlé d'un voyage dans le temps. Parce qu'on a l'impression que, voilà, il n'y a pas simplement qu'on voit des choses. On a l'odeur, on a les bruits qui étaient autour, on a vraiment eu, pardon, une image complète. Oui.
Alors, vous avez lu beaucoup de recherches. On s'aperçoit en observant les références que vous avez, les notes de bas de page, qu'au fond, depuis 30 ans, depuis 40 ans, cette question, elle a progressé au plan scientifique. C'est-à-dire que, du fait des progrès techniques aussi de l'imagerie cérébrale, notamment, un certain nombre d'hypothèses, de théories qui permettaient de comprendre ce système d'indexation que vous venez d'expliquer, ont pu être plus ou moins vérifiées empiriquement. Il reste encore énormément de choses à comprendre. Mais c'est un domaine absolument passionnant qu'on découvre.
Et à peu près chaque semaine, il y a des nouvelles contributions, notamment sur la mémoire épisodique, mais aussi sur cette question qui est celle des dysfonctionnements, en fait, de notre capacité de narrer, où il y a eu des recherches plus récentes, parce que c'est un peu compliqué à étudier, puisque on n'a pas d'accès direct, donc on a l'accès par imagerie. L'idée m'est venue, en fait, de m'intéresser aux marges, parce que c'est comme ça qu'on étudie en neuropsychologie les déficits, c'est-à-dire
les pathologies.
Les pathologies, et c'est les pathologies qui nous apprennent comment nous fonctionnons normalement quand il n'y a pas de pathologie, parce que les pathologies montrent ce qui est indispensable pour que ça puisse fonctionner.
D'où cette idée, c'est le titre du livre, des dys narrations
qui sont voilà, il y a une vraie typologie qui a été faite par la recherche dans ce domaine-là.
C'est quoi, par exemple, alors?
Mais c'est, par exemple, soit des gens qui n'arrivent pas à aller au-delà d'une première phrase, enfin, puisque c'est souvent par des narrations verbales que c'est étudié, donc qui répètent la même phrase. Ou c'est des gens, au contraire, qui vont avoir une sorte de vraie logorée, mais sans qu'il y ait de lien ni de cohérence logique
la
ni
structure
autre.
Pareil,
voilà, il y a rien. Voilà, c'est une voilà. Il y a d'autres pathologies où les gens arrivent à construire un récit mais n'arrivent pas à le mener à la fin parce qu'ils ont un déficit dans l'évaluation des situations. Donc ils enchaînent les situations et rien n'en sort. Donc, et ces pathologies, c'est ça qui est sans doute le plus important, sont toujours liées à des pathologies de la personnalité, de l'identité personnelle. Parce que si nous ne pouvons plus nous raconter à nous-mêmes, ou si notre mémoire épisodique flanche ou des choses comme ça, eh bien c'est notre propre identité qui disparaît. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis beaucoup servi de Hume à un moment donné. Plutôt là, par rapport à la fiction, mais c'est bien parce que Hume avait déjà cette impression que c'est un flux. Et si ce flux ne fonctionne pas, eh bien nous ne fonctionnons plus, nous ne sommes plus là. C'est cohérent avec l'idée que la narrativité est importante, parce que la narrativité, c'est le flux.
Autre objet, les rêves.
Oui.
Les rêves sur lesquels vous vous êtes penché de manière assez différente, sans pour autant être orthogonale de l'approche psychanalytique, par exemple, Jean-Marie Schaeffer.
Oui, c'est parce que c'est un débat qui existe depuis longtemps et d'ailleurs c'est pas nécessairement incompatible. C'est-à-dire là pour la psychanalyse, le rêve c'est le lieu où se résolvent un certain nombre de problèmes qui peuvent pas se résoudre autrement. Pour les sciences cognitives, c'est le lieu où, et donc c'est pas très différent, où sont réélaborés les événements qu'on a vécu, où ils sont en quelque sorte pesés, stockés. Mis en relation avec d'autres événements, d'où le caractère très étrange des rêves, parce que tout ça, c'est de l'association. C'est de l'attraction par, je dirais, par force. Les éléments les plus forts attirent les autres et ça produit des résultats assez, assez étranges. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est à quel point, dans le cas des rêves, la structure narrative est complexe, comparée à la mémoire épisodique, qui est très très simple. Donc c'est la complexité et cela explique, je pense, pourquoi la psychanalyse, où Freud a commencé, s'est intéressé à cela. Parce que c'est tellement complexe que on se dit, il doit y avoir une signification, il n'y en a peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très difficile de s'extraire de cette conviction que, étant donné la complexité, il doit y avoir quelque chose en dessous, et il faut trouver ce qui est en dessous. Mais peut-être qu'il suffit tout simplement de suivre le fil du rêve tel qu'il se présente, dans le souvenir, puisqu'on se rappelle le matin.
Essayer de comprendre l'articulation entre rêve et mémoire, parce que cette fonction de tri, finalement, de filtrage.
Filtrage, oui.
Donc le rêve est très important.
Oui. À la fois de filtrage et de réorganisation.
D'indexation,
parce que le vrai problème aussi de la mémoire épisodique, c'est que du fait que les index sont toujours de nouveau nourris, en fait, on produit sans cesse de faux souvenirs. Et ça, c'est une question à laquelle la psychanalyse s'est beaucoup intéressée. Beaucoup de nos souvenirs épisodiques sont des faux souvenirs. Et ça aussi, c'est un trouble. Et c'est une situation frontière. C'est cette porosité qui m'intéresse dans différents domaines.
Oui, dans différents domaines, la porosité, on va y revenir peut-être entre la fiction et les faits en particulier, que vous proposez de considérer comme une frontière et pas comme deux domaines vraiment séparés avec tout ce que ça suppose de porosité. Mais vous vous intéressez également dans cet essai, Jean-Marie Schaeffer, à la question des images. Oui. Parce que peut-être qu'une des erreurs, ça a été longtemps de réduire le récit à la langue, aux mots, au discours, alors que, vous le rappeliez tout à l'heure, les enfants, dès le plus jeune âge, sont face à des récits d'images, et probablement que ces récits d'images ont, de manière anthropologique, plus d'importance qu'à aucun autre moment, peut-être, dans l'espèce humaine. En tous les cas,
ils nous entourent.
Oui, oui, oui. Donc comment vous vous êtes posé la question du récit visuel ?
En fait, en général, on se pose la question, c'est lié à notre tradition, on se pose la question par rapport au langage, depuis des siècles. Mais en réalité, je pense qu'il faudrait se la poser par rapport à la perception, d'abord, parce que l'image, elle est d'abord liée à la perception. C'est grâce à nos compétences perceptives que nous pouvons aussi comprendre, entre guillemets, des images. Il y a une sorte de continuité. C'est ça qui est tout à fait étonnant chez les très petits enfants. Ils n'ont pas plus de difficulté à entrer dans une image qu'à entrer dans le réel qui est face à eux. Ça fonctionne très très bien. Ils reconnaissent très très vite un objet tridimensionnel, enfin une poupée, quand elle est simplement en image. Ça ne leur pose aucun problème.
Alors que dire des enfants du confinement, j'imagine que ceux qui ont été socialisés avec des relations à distance plus intenses encore.
Oui. Donc il y a vraiment une relation native, enfin originaire entre image et perception visuelle. Et perception, en fait, pas seulement visuelle, parce que la perception visuelle n'existe jamais seule. C'est toute notre relation perceptive au monde qui implique les sons, qui implique tout, qui est d'ailleurs aussi évoquée par les images. Donc, ce n'est pas pour nier le rapport très fort que les images entretiennent par ailleurs très souvent avec le langage. Et c'est simplement de dire, oui, mais il n'y a pas que cela. Il y a, si on veut vraiment comprendre les images, il faut à la fois remonter dans la genèse, le développement humain, vraiment tout au début, et voir comment ça fonctionne chez les tout petits enfants. Et du même coup, il faut penser la relation entre image et perception. Et donc, image et expérience intramondaine, normale, avant de se poser la question de la relation avec le langage. Et surtout, de ne pas se la poser en disant que l'image est seconde par rapport au langage, comme on dit souvent. Elle est structurée linguistiquement ou pseudo-linguistiquement. Il y a des types de structuration de ce type dans certaines traditions imagées, mais ça, c'est pas tout.
Le cinéma, par exemple, permet peut-être mieux que d'autres objets de comprendre des choses qui ont trait à la réception des œuvres et au rôle du récit, à la manière dont vous parliez tout à l'heure de faire en sorte que ça fonctionne, c'est-à-dire que le récit soit, qu'on puisse entrer dans le récit ou se l'approprier. Et au fond, c'est parce qu'il y a une sorte de congruence entre notre structuration cognitive faite de tous ces récits et les récits qui sont proposés dans les images qu'on peut être dans, je sais pas comment dire, une sorte d'empathie des œuvres.
Enfin, c'est... Oui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. C'est que dans le cinéma, c'est encore plus apparent que dans une image fixe, puisque là, on peut toujours dire ça bouge pas. En fait, ça bouge dans notre tête, mais ça bouge pas devant nos yeux. Dans le cinéma, ça bouge aussi devant nos yeux, d'où ces effets d'immersion beaucoup plus fort, en tout cas pour nous. Actuellement, parce que là, l'immersion est quelque chose de relatif aussi aux cultures. À l'époque de Platon, un décor de théâtre un peu naturaliste, il pensait que c'était vraiment la fin, on allait confondre ça avec la réalité, etc. Mais le cinéma est vraiment, peut être dans des situations limites, après tout. Le cinéma peut aller jusqu'à la réalité virtuelle, sur l'immersion avec des casques de vision, etc. Et il y a des moments où, effectivement, ça fonctionne comme une perception. Dans le cinéma, il y a des moments, un objet qui s'approche de nous, la tête bouge, c'est-à-dire, ça veut dire que notre cerveau, il a réagi pendant une fraction de seconde comme si c'était un objet réel. Et ça joue aussi pour les effets d'empathie, parce que dans le cinéma, c'est des personnes, qui bougent, par exemple, et des personnes, eh bien, nous avons l'habitude de nous projeter dans eux, non pas simplement comme des objets ou comme des choses, mais comme étant l'autrui, enfin, ou l'autre. Et donc, nous projetons, en fait, l'ensemble de notre système évaluatif, de nos émotions dans les choses qui bougent comme nous bougeons. Et le petit enfant fait déjà sa différence très très tôt entre ce qui est animé et ce qui n'est pas animé. Et ce qui compte quand c'est animé, c'est que ça bouge. Donc ça peut être un petit camion avec lequel il joue. Mais ça, il faut que ça bouge, parce que quand ça bouge, eh bien, il y a l'idée qu'il y a une action. Et donc il y a quelqu'un qui est le sujet de cette action.
Et quand ça bouge longtemps ou quand ça vit longtemps, si on ajoute à ça la question de la durée et du temps, ça permet peut-être de formuler une hypothèse sur l'efficacité incroyable en termes d'immersion de ce qui a un énorme succès. J'en parlais en début d'émission, c'est-à-dire les séries télévisées. Oui. C'est-à-dire cette façon qu'ont les gens de littéralement d'aller habiter des séries télévisées, oui, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines.
Oui, oui. Oui, parce que la série télévisée, comme d'ailleurs le roman feuilleton déjà, joue sur la discontinuité et donc sur l'effet d'attente, parce que l'histoire n'est pas close. On fait pour qu'elle ne soit pas close. Et en fait, les histoires, y compris les histoires closes, continuent de toute façon à résonner encore dans notre esprit. Et surtout, quand une histoire n'est pas close, eh bien, il y a l'attente de quelque chose qui va suivre. Et en réalité, souvent, nous aimerions que l'histoire ne finisse jamais. C'est pas pour rien qu'il y a des romans fleuves.
C'est pas pour rien que les spectateurs de séries télévisées sont souvent indignés par la manière dont elles se terminent.
Il y a des polémiques. Oui. Dont on élimine les personnages
récemment.
Oui. Parce que, en fait, là, c'est cela aussi. Ça tient aux structures de base de la narration, comme de la mémoire, par exemple, la mémoire épisodique. C'est pas clos. C'est quelque chose qui est ouvert. Enfin, qui sera clos le jour où on sera mort, mais qui, jusque-là, est toujours ouvert. Et c'est en fait ça que nous attendons. Et d'où, je pense que les grands romans, les grands récits, c'est les récits où la clôture est en fait une ouverture. Et on peut continuer à rester dedans.
Dans les troubles du récit, c'est cet essai que vous faites paraître, Jean-Marie Schaeffer, vous abordez aussi la question de la distinction, vieille question, entre la fiction et la réalité, entre le vrai et la fiction, pour au fond mieux comprendre, en analysant toujours le récit à travers votre approche, mieux comprendre qu'il faut peut-être laisser cette frontière comme une membrane, quelque chose qui permet une circulation de l'un à l'autre.
Pour moi, c'était quelque chose de pas facile, en fait, à admettre, parce que j'ai été formé en philosophie, en logique, en logique, la distinction entre la vérité et la fiction est très très importante et est une distinction catégoriale. Donc, les deux peuvent pas se mélanger, à tel point que, y compris dans les études littéraires, les gens qui ont travaillé sur la fiction, on dit que si, par exemple, un personnage historique, Napoléon, apparaît dans un roman, ce n'est plus le personnage historique, c'est, je sais pas, un fantôme, un avatar. Mais ce n'est plus lui. Donc c'est quelque chose où il y a une grande, comme une sorte d'angoisse. Et l'idée de frontière, c'est toute frontière, elle laisse passer des choses, heureusement. Donc en ce sens, c'est une frontière. C'est pas une différence catégorielle. On peut en construire une, on en a besoin dans certains contextes. Mais en fait, c'est une frontière. Et comme toutes les frontières, contrairement à ce que les gens qui nous dirigent parfois peuvent penser, c'est pour eux. Et c'est pour eux dans les deux directions. Ça circule dans les deux directions.
Donc ça vous intéresse d'observer ce qui circule.
Voilà, ce qui circule.
Alors qu'est-ce qui circule ?
Ce qui circule, c'est une chose qui devrait pas circuler. D'une certaine façon, c'est ce qui circule, c'est des croyances. Et on pense toujours que nous avons besoin de croyances sérieuses pour comprendre une fiction, bien sûr. Si nous n'avions pas nos croyances et nos souvenirs réels pour lire un texte, nous ne pourrions pas entrer dedans, parce que le texte a des trous, comme tout signe a des trous, et les trous, c'est celui qui interprète qui doit les remplir. Mais on pense que dans l'autre sens, il devrait y avoir une frontière comme celle de la Corée du Nord, c'est-à-dire que voilà, on sort pas. Mais en réalité, quand on lit les études des psychologues cognitifs qui se sont intéressés à ces questions-là et qui ont fait des expérimentations, on se rend compte qu'en fait, il y a toujours des passages. Et lorsqu'on, par exemple, on interroge quelqu'un sur ses croyances, sur n'importe quel personnage historique, après on lui donne à lire un roman où il y a des choses vraies sur ce personnage et des choses inventées. Après on lui fait repasser les tests et il va en fait introduire un certain nombre de choses fictionnelles parmi ses croyances réelles. Et quand on lui dit « Ah mais vous aviez pas répondu, dit ça hein, », il dit « Mais je le savais depuis toujours ». C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'est pas conscient. C'est un passage qui se passe à un niveau, subpersonnel ou inconscient, ou non conscient en tout cas. C'est-à-dire que la personne, quand elle prend conscience de ça, pour elle, c'est déjà classé parmi les croyances. Pourquoi ? Parce que c'est un réseau, ça, c'est cohérent dedans. Il n'y a aucune raison pour que ça ne soit pas là-dedans. Donc, il y a vraiment des passages de la fiction à la réalité. Ce que Platon pensait, soit dit en passant.
De fiction et de littérature, on continue de parler dans la deuxième partie de l'émission avec Lise Charles qui nous rejoint. Mais avant cela, on écoute un extrait d'un des très beaux et complexes récits, chansons-récits que Bob Dylan a choisi de rendre public en plein confinement il y a quelques mois et qu'on trouve sur son nouvel album « Murder Most Foul ».
T'was a dark day in Dallas, November 63. The day that would live on in infamy. President Kennedy was a right line. Good day to be living and a good day to die. Being led to the slaughter like a sacrificial lamb. You say, wait a minute, boys, you know who I am. Of course we do, we know who you are. Then they blew off his head while he was still in the car. Shot down like a dog in broad daylight. Was a matter of timing and the timing was right. You got unpaid debts, we've come to collect. We're gonna kill you with hatred without any respect. We'll mock you and shock you, and we'll grin in your face. We've already got someone here to take your place.
France Culture, la suite dans les idées, Sylvain Bourmont.
Trouble du récit, c'est le titre de l'essai de Jean-Marie Schaeffer dont il est question aujourd'hui à la suite dans les idées. De troubles dans le récit, il y en a dans votre roman La Demoiselle à cœur ouvert, Lise Charles, un roman qui prend une forme particulière, qui paraît aux éditions POL. Un roman qui prend une forme particulière, c'est principalement un roman qu'on peut dire épistolaire, mais dans lequel vous injectez également d'autres textes, d'autres éléments. C'est donc une sorte de dispositif un peu complexe. C'est pas l'histoire classique que les romans racontent. Alors peut-être c'est pas sans relation avec le fait que vous êtes écrivaine, romancière, mais vous êtes aussi spécialiste de littérature, et je pense qu'un certain nombre des choses évoquées par Jean-Marie Schaeffer dans la première partie vous sont très familières, Lise Charles. Je disais tout à l'heure que ce roman était sans doute le plus réflexif de la rentrée littéraire. C'est un roman qui est pétri de réflexions sur la littérature, mais au-delà, sur des questions qui sont aussi celles de la narratologie, par exemple.
Oui, c'est vrai, c'est...
Ou de la grammaire, mais...
C'est un roman qui se lit comme un roman, je pense. C'est un vrai roman, c'est pas du tout un essai, mais au sens où il ne présente aucune hypothèse, ne prétend donner aucune réponse, mais... il y a un côté, c'est sûr, tous les personnages passent leur temps à réfléchir à leur propre langage, c'est l'intérêt du roman épistolaire aussi, c'est que chaque personnage a son langage, sa rhétorique propre, Et donc on peut le lire à différents niveaux. On peut le lire comme un roman d'action et on peut le lire aussi comme un roman réflexif, comme vous venez de le dire. C'est un des intérêts de la forme épistolaire.
Alors avec un personnage principal, d'une certaine façon, enfin je ne sais pas si vous le considérez comme tel, qui est pensionnaire à la Villa Médicis.
Je ne sais pas si je dirais que c'est mon héros, j'aimerais bien que ce soit quelqu'un d'autre, je pense, dans le roman, mais la correspondance est centrée autour de ce personnage. C'est lui qui occupe la majeure partie du livre, qui a comme pseudonyme Octave Milton, et qui est en effet un écrivain en manque d'inspiration, qui est pensionnaire à la Villa Médicis en 2017-2018, et qui passe son temps à piller la réalité. C'est pour ça aussi que ce que j'entendais dire à Jean-Marie Schaeffer m'intéressait, c'est cette question de la porosité constante entre ce qu'il prend du réel, mais qui n'est pas un vrai réel, puisque c'est le réel de la fiction, et ce qu'il en fait dans ses propres fictions.
Du cannibalisme,
ou à un moment, on le traite de vampire, on dit tous les écrivains sont des vampires, et voilà, c'est une question de cette vampirisation de ses correspondantes.
Vous l'avez lu, Jean-Marie Schaeffer, ce roman?
Je l'ai lu et je trouve que c'est un roman. Vous avez parlé de plusieurs niveaux. C'est effectivement, c'est autrefois, quand j'étais jeune, on aurait dit polyphonique. C'est vraiment, d'abord, c'est polyphonique parce qu'il y a différents narrateurs, enfin, tous les. Mais aussi à cause de la structuration et de la réflexivité du niveau méta. Mais en même temps, c'est un livre profond. Et assez terrifiant pour moi, à certains aspects. Et notamment, il montre, à travers ce cas d'Octave, comment, à la fois, il cannibalise la réalité des autres, ou les croyances des autres, si les croyances ne sont pas la réalité, et comment il les réélabore, et ça produit de nouvelles réalités. Ces fictions produisent des nouvelles réalités, et quelles réalités? Terrifiantes, à la fin. Donc, je trouve que c'est... Bien sûr, c'est réflexif, mais c'est quand même aussi très profond et très angoissant, à vrai dire, à cause de ce personnage et à cause de cette mauvaise fée qui est à l'arrière, qui termine le roman sur un truc absolument cynique, terrifiant. C'est un très beau livre.
Mauvaise fée qui est présentée comme la vraie, entre guillemets, éditrice. Là aussi, on a un contexte, on sent qu'on est dans ce contexte de la situation de la littérature aujourd'hui comme un monde social. Tout ça est très présent dans votre roman, sans qu'il soit décrit au fond.
Oui, c'est tout à fait. C'est une mauvaise fée qui. Enfin, vous parliez d'angoisse. Cette angoisse, elle est aussi la mienne, parce que cette mauvaise fée qui s'appelle Livia Colangeli porte mes initiales. Et l'écrivain vampire, tout écrivain est vampire. L'écrivain vampire, c'est aussi moi qui pille certaines choses pour ce livre. Ça crée peut-être un vertige vraiment à différents niveaux.
En plus, votre créature vous vampirise.
Voilà, donc c'est dans tous les sens. C'est, ouais.
Et c'est un livre qui peut se lire. Je dois dire que c'est le premier livre de vous que je lis. C'est pas le premier que vous publiez. Vous avez publié deux autres livres de littérature générale, comme on dit, et puis aussi des livres pour enfants.
Ouais.
Et tout ça entretient des relations complexes dont on a quelques indices en vous lisant là, Lisha.
Oui, c'est ça. J'ai reçu récemment un mail d'une romancière qui publie aussi chez PEL, Nina Yerjekov, qui me disait que c'était mon troisième roman et qu'il fallait peut-être trois livres pour faire un triangle, donc une aire, alors qu'avec deux, on peut faire seulement un segment. Et j'ai trouvé que c'était assez juste. J'étais assez contente d'imaginer que ça dessinait une aire. Et c'est un roman qui peut se lire indépendamment, totalement indépendamment des autres, comme vous l'avez dit, mais c'est aussi un roman qui s'inscrit dans qu'il commence à construire quelque chose. Là, je fais une ère en deux dimensions, mais j'aimerais bien pouvoir amplifier ça. Et notamment par le retour des personnages, puisque certains personnages étaient déjà présents dans mes autres livres. Il y a leurs noms étaient déjà présents. Donc il y a des sortes de réincarnations de personnages. Par exemple, Marianne Renoir, qui est l'une des héroïnes de ce livre, c'était l'héroïne de mon premier roman. Et c'est aussi le pseudonyme que j'ai choisi pour écrire mes livres pour enfants. Donc il y a des interactions
comme auteur.
Aussi. Voilà, comme auteur, oui.
Mais c'est ça que je trouve particulièrement intéressant et audacieux, ambitieux en tous les cas dans votre travail, Lise Charles, c'est le fait que un des enjeux peut-être pour la littérature contemporaine, c'est de se dire qu'il ne suffit pas ou il ne s'agit pas de raconter une belle histoire qui a un début, un milieu et une fin, ce qui est quand même le cas de la majorité des romans qui paraissent en cette rentrée littéraire, mais que la littérature peut peut-être regarder ce qui se passe du côté de l'art contemporain et essayer de construire des dispositifs qui peuvent recourir au récit, mais ne se réduisent pas à la production d'un récit.
Oui, et c'est l'un d'ailleurs des intérêts d'avoir choisi comme cadre la Villa Médicis, c'est que il y a beaucoup de discussions, surtout dans le début du roman, entre Octave Milton et notamment des peintres, des compositeurs, et des discussions sur ce que signifie inventer dans différents domaines, ce que signifie inventer en peinture, recopier ou inventer, et donc oui, c'est ça ne conçoit pas la littérature comme un objet complètement autonome, et voilà.
Jean-Marie Schaeffer, vous aussi, vous êtes curieux de tous ces domaines de création, vous n'êtes pas enfermé sur l'un.
Non,
je suis toujours frappé par le fait, encore aujourd'hui, que la littérature, beaucoup plus que d'autres domaines, a tendance à se clôturer souvent et à rester dans le canonique, notamment dans ce rapport très étroit au récit, quoi, qui pèse très lourd sur la littérature.
Oui, je pense que pendant très longtemps, ce qui a pesé très lourd, c'était la fiction. Maintenant, c'est le récit. Il est omniprésent, il est surévalué et en même temps sous-évalué. C'est tout à fait étonnant. Mais en même temps...
Parce qu'on en a une définition précise et qui est trop étroite.
Oui, tout à fait. Oui. Et c'est pour ça que je trouve votre roman est un vrai contre-exemple. Et aussi votre idée que l'œuvre... c'est quelque chose d'ouvert et de progressif. C'est pas parce qu'on a écrit un livre qu'on a fini l'histoire que non. C'est un monde qui se construit en fait. C'est un univers que vous construisez et qui va au-delà de la frontière d'un seul livre. Et ça, c'est tout à fait pour le lecteur, c'est très bien.
On peut rapprocher ça aussi du fait que finalement l'écriture, elle est déjà. Au fond, elle apparaît déjà comme un processus dans le simple fait du choix du roman épistolaire. C'est-à-dire que il y a quelque chose de la trace d'un work in progress dans ce livre.
Oui, parce que en fait, ça me faisait penser à ce que vous disiez sur la question de la proto-narration. Oui. C'est que c'est un ensemble de mails, de documents. Parfois, il y a des mails que j'ai recopiés tels quels, qu'on m'a envoyés et qui figurent comme des documents et qui ensuite vont se mettre à faire récit une fois qu'ils entrent en écho les uns avec les autres. Donc la forme épistolaire permet vraiment de former une architecture à partir de quelque chose qui pourrait au départ ressembler à un simple amas d'anecdotes ou une pure correspondance d'écrivain, et finalement pour faire un récit qui se lise vraiment avec un intérêt dramatique, il faut construire des échos entre un mail qui va survenir à la page 3 et un autre qui va survenir à la page 300 pour faire une architecture.
Ce qui vous permet aussi d'injecter des récits de nature très différente, un article scientifique, une nouvelle.
C'est ça, ouais.
Et puis je voudrais y venir quand même, un journal, un journal personnel tenu par une petite fille au début, qui donne son titre aussi au roman, Lise Charles, qui est, bon, c'est une part importante du roman, c'est un morceau en quelque sorte de l'œuvre importante, et qui elle-même, dont le statut est étrange parce que c'est une œuvre volée et en même temps prolongée, donc là encore la frontière entre réalité et fiction est très poreuse.
Ouais. Parce que tout d'un coup, le récit épistolaire cède la place à un journal intime d'une nature un peu particulière, puisqu'il s'agit d'une collection de fragments qui prend un tiers du livre et qui est en effet le journal d'une petite fille, puis une adolescente, puisque ça va de ses 7 à ses 14 ans, et qui est volée par l'écrivain. Et qui
est présenté comme publié tel quel.
Voilà, et c'est aussi un attrait que je trouve à la forme épistolaire, c'est qu'on peut injecter des formes de nature très très différentes, puisque ce journal, il l'envoie dans un mail au départ.
Mmh. C'est une pièce jointe.
Voilà, c'est une pièce jointe, exactement. Et c'est à vrai dire, pour moi, c'est le morceau central du livre. Mmh. Qui finalement redéfinit tout ce qui précède et par un effet de contraste, puisque on a un contraste entre une voix assez pure d'une petite fille puis d'une jeune fille et tous les discours justement enfermés dans leur rhétorique complexe et qui s'embrouillent souvent des adultes, des grandes personnes comme elle dit au début du roman. Donc c'est pour moi en effet une pièce centrale du livre.
Bon, vous l'avez lu ce journal, Jean-Marie Schaeffer.
Oui. Et c'est la pièce centrale et c'est une voix pure de jeune fille, mais c'est ce qui va être sa perte, d'une certaine manière. C'est ça, c'est pour ça que c'est un roman vraiment dérangeant et avec une dimension tragique vraiment dedans, puisque c'est le fait même que ce journal soit une expression pure et soit très différent des autres discours, mais qu'il soit volé. Qui détruit la pureté, en l'occurrence la jeune fille en question.
Merci beaucoup, Jean-Marie Schaeffer. Je rappelle que vous publiez Les troubles du récit pour une nouvelle approche des processus narratifs, un livre qui paraît aux éditions Thierry Marchès. Et merci beaucoup, Lise Charles. Votre roman est titré La demoiselle à cœur ouvert. Il paraît chez POL. Vous trouvez les références bibliographiques de ces deux livres sur la page de la suite dans les idées sur le site de France Culture. Une page où vous pouvez bien évidemment réécouter l'émission en streaming ou télécharger le podcast. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production Marie Dalquier, à la technique Philippe Mercher, à la réalisation Marie Placé. Et dans quelques instants, c'est Christine Bernard que vous retrouvez pour une histoire particulière.